C'est
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir pour cette dernière séance du cycle de webinaire Médicine. Donc c'est la quatrième séance. Donc nous recevons aujourd'hui Bastien Mirecourt qui est chargé de publication au CNRS et donc qui va nous présenter donc tout son travail en fait qu'il fait sur les publications africanistes. Je voulais dire quelques mots sur le cycle de webinaires que nous avons conçu avec le comité de pilotage de Médicine. Donc c'était un cycle dédié donc aux nouvelles formes d'édition, à ce qui se fait, ce qui est, voilà les modèles qu'on peut envisager, étudier, reproduire éventuellement dans un cadre de sciences ouvertes. Donc nous avons souhaité une variété en fait des présentations. Nous avons trouvé que ça s'était plutôt bien passé. Nous espérons que vous avez également apprécié ce que nous vous avons proposé. Et nous allons réfléchir prochainement en fait, donc très prochainement parce que le comité de pilotage se réunit la semaine prochaine en effet, pour vous proposer sans doute un second cycle pour le second semestre 2021. Donc toutes vos idées, vos suggestions sont les bienvenues. Nous aurons un petit questionnaire d'évaluation à la fin de cette session. Donc toutes vos idées peuvent être indiquées soit si vous en avez tout de suite immédiatement dans ce questionnaire, soit par la suite en nous envoyant un message à l'adresse du comité de pilotage. Nous les étudierons avec grand plaisir et avec attention. Et puis, tout au long de l'année, si l'été vous inspire également, vous pouvez nous solliciter, nous faire part non seulement d'idées, mais aussi de propositions d'intervention. Nous serons vraiment ravis d'échanger avec vous à ce sujet-là. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de passer la parole donc, à Bastien Mirecourt pour nous présenter donc, son exposé qui va durer environ... une heure, à la suite duquel nous prendrons une série de questions, si vous le voulez bien. Et donc, vous pouvez garder vos caméras ouvertes si vous le souhaitez. Et par contre, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Et puis, Bastien, c'est à toi.
Bonjour et merci à tout le monde d'être là. Alors, ça va peut-être être un peu... pas décevant, je sais pas, mais avant de parler de mon métier, je vais parler du contexte, pas du contexte général des publications dans les études africaines, parce que c'est un sujet absolument énorme, mais de quelques observations, et la présentation du contexte va présenter vraiment la grande majorité de l'exposé, parce qu'il me semble que c'est un domaine où le contexte est sacrément important. Alors, je lance... le diaporama avec un titre un petit peu ambitieux pour l'exposé. Vous allez voir. Alors, je vais poser quatre grandes questions dans cette présentation. Et la première, celle qui me vient en premier et qui m'est venue dès qu'il a été question de travailler pour ce domaine, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose que sont les études africaines. C'est quand même un étrange... découpage disciplinaire qui recouvre pas des disciplines traditionnelles, qui met dans le même sac énormément de disciplines des sciences humaines et sociales et énormément de territoires géographiques. Les études africaines, ça peut être l'histoire de l'Éthiopie, ça peut être la politique au Maroc ou la géographie de l'Angola. Et quelle est la réalité académique et éditoriale de ce champ? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'est une lubie plutôt récente et on parle d'un domaine qui ne serait pas vraiment structuré? En fait, on s'aperçoit très rapidement que pas du tout, c'est un domaine scientifique extrêmement structuré ou au moins un domaine académique extrêmement structuré. Preuve en est le nombre de centres d'études africaines qu'on trouve dans le monde, en Afrique, mais de manière assez spectaculaire en Occident, et notamment dans les pays anglophones. Il y a littéralement des dizaines de centres et d'instituts qui sont dédiés aux études africaines, nommément, c'est marqué dessus, African Studies, sur tous les continents. Et j'ai noté cette chose assez frappante, qui sont que les 30 premières universités du classement de Shanghai en sciences sociales ont toutes un département d'African Studies, et pour les nord-américaines, d'African American Studies, mais bon, qui regroupe un peu les mêmes, les, ce qui sont des champs connexes, en quelque sorte. Il y a énormément de départements, et de fait, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de diplômes qui sont délivrés, professionnalisants, et il y a pas mal de recherches qui sont faites. Alors, c'est vrai aussi en France, je ne vais pas aller assez vite, mais il y a un vrai paysage des études africaines en France, avec deux UMR qui sont dédiées en propre à ça, l'IMAF, l'Institut des mondes africains, et l'AM, les Afriques dans le monde, où je suis basé, en fait. Il y a 10 instituts implantés en Afrique, en comptant l'Afrique du Nord, hein, là je parle du continent africain, les UNIFR, j'y reviendrai, donc les unités mixtes des instituts français de recherche à l'étranger. J'ai pas mis, il y a des unités mixtes internationales basées également sur le continent, et il y a des instituts de recherche et d'autres laboratoires qui ne sont pas nommément dédiés aux études africaines, mais qui sont importants dans ce champ. Je pense à l'IRD, bien sûr, au centre de recherche de Sciences Po, au CESPA, à Toulouse ou à l'INALCO. Et il y a aussi des écoles françaises à l'étranger qui sont également sur le continent, l'IPA au Caire. Voilà, et comme c'est un domaine académique très structuré, ce n'est pas surprenant de se rendre compte que c'est un domaine d'édition très structuré, avec une catégorie spéciale qu'on retrouve souvent, qui est African Studies, et avec un nombre assez impressionnant de revues, de collections de livres aussi, mais là, je parle des revues, et des revues de haut niveau, avec, si on prend les terminologies classiques, des H-index, des facteurs d'impact très importants. Donc, dans la collection, la core collection du Web of Science, j'ai compté environ, hein, parce qu'il faudrait... Il faut dépouiller quand même plus de 5000 revues, entre 40 et 50 revues dédiées aux problèmes, aux enjeux scientifiques sur l'Afrique. Alors, si on regarde les éditeurs qui éditent ces revues, on voit quelque chose émerger assez rapidement, c'est que le Royaume-Uni est largement majoritaire. Ce n'est pas un hasard, j'y reviendrai. Ensuite, les États-Unis, quelques grands pays, les Pays-Bas, la Belgique, qui sont des pays d'éditeurs, de grosses plateformes éditoriales, Brill ou De Gruyter. L'Afrique du Sud est le seul pays africain représenté dans cette édition de revue, pour 10% de ce petit corpus. Et vous ne fatiguez pas à chercher les éditeurs français, vous ne les trouverez pas. Donc, ben j'appuie sur ce terme, il y a un enjeu éditorial d'excellence, c'est-à-dire qu'il y a des revues d'excellence dont je donne la liste tirée du top dans Google Scholar, où vous voyez que African Affairs est la première, et je vais y revenir pas plus tard que maintenant. Et voilà. Et ça, j'avais évité de le dire au début, mais vous en avez peut-être une idée. Cette histoire éditoriale, en fait, est extrêmement ancienne. African Affairs, le journal le mieux classé de toutes les revues, pardon, en études africaines, a été fondé en 1901, sauf qu'il s'appelait le Journal of Royal African Society. Je fais un petit parallèle avec d'autres revues. Ce n'est pas du tout la seule revue à être ancienne. En France, vous avez la revue qui est encore vivante, Outre-mer, revue d'histoire, qui a été inaugurée en 1912. Là, je mets le numéro du centenaire. Et elle s'appelait, à la base, Revue de l'histoire des colonies françaises. Et vous avez compris la profondeur historique de ce champ des études africaines. Elle s'ancre, je ne dis pas du tout que c'est la même chose et que les paradigmes n'ont pas changé, bien évidemment, mais il y a une continuité, et notamment dans certains pays comme le Royaume-Uni, la France ou la Belgique, dans ce qu'on appelait au XIXe siècle les sciences coloniales, qui était déjà un domaine assez existant, avec pas mal de gens qui travaillaient dessus. Et donc là, j'ai pris l'angle des revues, mais pour les centres de recherche ou les instituts de recherche sur ces thèmes-là, on retrouve aussi cette profondeur historique dans certains cas. Bon, la Société africaine royale existe encore sous un autre terme à Oxford. Et les Afriques dans le monde, le laboratoire auquel je travaille, a une histoire qui, en fait, remonte aux années 50. Et avant cela, il s'agissait d'agréger des gens qui travaillaient déjà dans l'université bordelaise sur les thèmes africains, qui étaient les thèmes des colonies qui ont ensuite été océanisées en Outre-mer. Et bon, Outre-mer, le terme paraît encore aujourd'hui dans certaines revues. Mais voilà, on parle d'études africaines, d'études aériennes. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la même chose. Mais voilà, il y a une histoire, on va dire. Toc. Alors, le deuxième point qui va être le plus long, je vais essayer de donner quelques petits éléments sur ce qu'il en est de l'accès ouvert dans les études africaines, l'accès ouvert des publications numériques aujourd'hui. Parce que, bon, spontanément, on a envie de se dire que l'accès ouvert pour les études africaines, des études qui sont faites souvent au nord pour un continent qui se situe au sud, l'accès ouvert et le partage de documentation devraient être un des premiers réflexes. Et il se trouve qu'il y a assez peu d'accès ouvert, en réalité, dans les publications, là je parle des revues ou des livres. Et là j'ai quelques hypothèses, hein, c'est des hypothèses personnelles, qui sont pas non plus extrêmement exotiques, vous verrez. Mais comme je vous ai dit que c'est un paysage éditorial en fait installé depuis assez longtemps et installé via des éditeurs privés, notamment britanniques ou nord-européens pour l'édition la plus prestigieuse, il y a également un marché existant et donc l'accès ouvert n'est pas forcément dans l'agenda prioritaire de ces éditeurs-là, à part l'accès ouvert via APC ou BPC pour les livres et les revues, j'y reviendrai sûrement. Et en France, alors c'est un autre paysage, un peu moins prestigieux, mais ce domaine est porté depuis bientôt une cinquantaine d'années en fait par deux éditeurs principaux, qui sont L'Harmattan et Cartala, des éditeurs privés, donc pour qui l'accès ouvert numérique n'est pas spécialement dans l'agenda. Et ce n'est pas non plus le cas d'un certain nombre de sociétés savantes qui existent aussi dans le domaine et qui sont assez... assez vénérable, par exemple la Société française d'histoire des Outre-mer ou la Société des africanistes qui prennent en charge également l'édition de revues. Une autre raison pour laquelle, et c'est aussi lié à ce que j'ai dit avant, en fait, l'accès ouvert n'est pas si développé que ça, c'est que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de centres qui forment beaucoup de diplômés. C'est un domaine de formation de praticiens et d'experts, en fait, aussi des études africaines. Ce n'est pas un domaine qui se situe dans le pur ciel des idées scientifiques. Et alors, il me semble que quand un domaine universitaire est assez orienté vers la formation de professionnels, l'accès ouvert est tout de suite un peu plus problématique parce qu'il y a, là encore, un marché plus ou moins captif pour ces publications. On se retrouve dans les études africaines. Pour moi, c'est un parallèle qui peut être fait. C'est comme le droit ou la psychologie. A priori, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais dans ce type de sciences et d'études académiques / professionnelles, ça me semble assez comparable. Alors, cela dit, est-ce que les éditeurs occidentaux se désintéressent complètement de l'accès de leurs publications sur le continent africain ? Ça ne serait vraiment pas très gentil de le dire, en fait. Même si formellement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'accès ouvert, il y a souvent, depuis traditionnellement, des programmes d'accès à la documentation, d'abord imprimés depuis longtemps, en partenariat avec les universités africaines, et aujourd'hui numériques, notamment avec la libération de bouquets de publications dans les universités africaines. Alors, ce petit camembert que j'ai mis, c'est l'agrégation des institutions abonnées au bouquet des revues de Cairn et d'Open Edition livrées gracieusement. Donc, ça fait une soixantaine d'institutions sur le continent, vous voyez, notamment dans l'Afrique francophone. Il y a aussi des installations numériques Vous avez 16 campus numériques qui ont été financés par l'Agence universitaire de la francophonie. Ce sont des salles avec du matériel informatique qui permet la consultation de documents. Et j'ajoute que, j'en ai parlé un petit peu, il y a un modèle open access chez les éditeurs de livres et de revues qui émerge quand même, surtout britannique et nord-européenne et américaine, et pas vraiment française, chez les éditeurs privés, hein, je parle, un modèle gold, donc systématiquement pour les revues, les grandes revues anglophones du top classement des APC sont proposées pour libérer l'article, elles sont toutes sur le modèle des revues hybrides. Pour les livres également, il y a possibilité d'acheter des droits de libération des livres. Et il y a quelques modèles diamants. Ça, c'est le cas de Cambridge University Press, qui, grâce à une souscription via Knowledge Unlatched, a pu libérer plusieurs dizaines de monographies en études africaines. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Il y a un accès dans les universités qui n'est pas de l'accès ouvert, qui reste à l'intérieur de l'institution. Les universités africaines ne recrutent pas, loin de là, une majorité des classes d'âge. Mais bon, on peut se dire que c'est déjà ça. Sauf que là où le bas blesse, et là je m'appuie sur des résultats de l'enquête SOA, dont je reparlerai, une enquête assez large qui a été faite auprès des étudiants africains. Sauf que donc, s'il y a un endroit où l'accès Internet est problématique et l'accès aux ressources numériques, c'est dans les campus universitaires, en fait. Et même les étudiants des universités africaines reconnaissent que l'Internet à l'université, ce n'est pas génial. Et la mise à disposition d'ordinateurs à l'université, c'est encore moins bien. Et l'accès aux campus numériques, alors là, c'est carrément pas grand-chose. Ces campus numériques qui sont en réalité, du fait de leur petite taille, réservés aux étudiants de troisième cycle ou ceux suivant des formations à distance et qui ne forment vraiment pas la majorité des troupes. Donc, Internet arrive très rapidement dans la plupart des pays africains où il est déjà très installé, sauf sur les campus. C'est quand même un petit souci. Alors là, j'ai parlé de l'édition en général, je vais essayer de rendre un peu plus étroit ma question sur les livres en français. Est-ce qu'il y a des livres en français en accès ouvert? Donc, je dévoile la conclusion dans le titre de la slide. Alors, j'ai essayé de faire comme j'ai pu pour avoir quelques indicateurs. Donc, j'ai recherché dans Sudop les références sur le sujet Afrique pour une année donnée, sinon j'en avais trop. C'est l'année 2019. Alors, il y a quand même 436 livres et 122 ressources électroniques qui ne sont pas que des livres. Alors, si on enlève les thèses et autres documents, ça fait 75 livres électroniques. Donc, en gros, 500 références. Et dans ces 500 références, il y a 31 livres en accès ouvert. Donc, ce n'est pas énorme. Et sur ces 31 livres, il y a en réalité 24 éditions et seulement 7 nouveautés ou livres récents. J'ai été assez large en allant des livres qui ont été publiés entre 2017 et 2019. Donc, ce n'est pas à proprement parler des nouveautés, mais bon, des livres récents. Et Open Edition, la plateforme Books, héberge 84% des livres référencés en accès ouvert. Et Cairn, qui a plusieurs centaines d'ouvrages sur la question, notamment car ils ont une très grande partie du fonds de Cartala disponible, à zéro livre en accès ouvert. Donc, conclusion, Open Edition Books, sur le domaine français dans le champ, a un rôle considérable. Et alors, si ensuite on regarde ce qui se passe pour le petit corpus qui existe sur les études africaines, sur Open Edition Books, et je vais parler aussi de Journals. Et si on prend l'angle des consultations, alors là, ça devient assez spectaculaire. Et c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années sur la plateforme. J'ai travaillé auparavant chez Open Edition, donc j'étais un peu au courant de ça, en fait. Ce n'est pas une surprise de cette année. Mais les livres sur ce qu'on peut appeler de manière générale les Suds, c'est-à-dire qui portent sur l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, et notamment qui sont écrits dans des langues que peuvent comprendre les sociétés desquelles parlent ces livres, si elles représentent une part assez faible du catalogue général des livres, sont extrêmement surreprésentées dans les meilleures consultations. Donc voilà quelques chiffres. 56% des 100 livres qui ont la meilleure fréquentation concernent les Suds. Et attention, 80% des 20 premiers, 16 sur 20. L'Afrique, le sujet Afrique, qui concerne moins de 4% du corpus, on retrouve 15% dans les 100 premiers livres, 30% dans les 20 premiers. Et l'Amérique du Sud, alors là, c'est un peu le tsunami, sur environ 8% du corpus, c'est 40% des premiers livres et la moitié des 20 premiers. Alors, il se trouve que la langue majoritaire du catalogue, c'est le français, mais il y a quand même un peu d'espagnol et un peu d'anglais, et on retrouve l'anglais et l'espagnol dans ses meilleures consultations. Alors, vous ne voyez pas forcément très bien le tableau que j'ai mis à droite. Bon, je suis désolé, ce n'est pas très grave, en l'occurrence. Ce que j'ai stabiloté en rose sur la colonne du milieu, c'est les ouvrages qui concernent l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. En vert, l'Afrique, et en bleu, le Moyen-Orient, en l'occurrence le troisième, l'Atlas de la Jordanie. Et donc, un autre chiffre intéressant, sur les 7 livres en français des 20 premiers livres, 5 traitent de l'Afrique. Et j'ai mis quelques titres parmi les livres sur le sujet Afrique qui sont les plus consultés sur la plateforme. Ce n'est pas spécialement particulier aux livres. Alors, vous voyez encore moins le tableau, je suis désolé, mais bon, j'ai stabilité aussi. Sur les revues. Alors, sur les revues, ça devient presque difficile à analyser parce que le corpus minoritaire de revues d'Amérique latine devient vraiment extrêmement prédominant dans les meilleures consultations. Donc, c'est difficile de regarder le reste, en fait. Donc, à peu près 75% du corpus global pour les articles en langue française, plus que 19% dans les articles les plus lus, à peu près 80% des meilleurs articles, enfin, ce n'est pas les meilleurs, mais c'est les plus fréquentés ou les plus lus, si vous voulez, concernent les Suds ou sont édités au Sud, et une grande partie en Amérique latine, et quelques-uns en Afrique, mais le tiers des articles français les plus consultés concerne l'Afrique et les diasporas africaines, qui sont souvent pas si différenciés que ça dans les études. Et quelques titres parmi les revues traitant du sujet Afrique ayant le plus de visibilité. Alors, d'autres petits points assez intéressants, assez frappants. Le deuxième article en langue anglaise le plus consulté sur la plateforme porte sur l'Afrique. C'était le premier en 2019. Et les deuxième et troisième articles en langue française les plus consultés portent également sur l'Afrique, dont un qui était premier en 2019 et qui est descendu sur la troisième place du podium. Et alors, voilà, un petit tableau rapide, parce qu'on s'en doutait un petit peu, mais d'autres indicateurs peuvent le corroborer. Les ressources qui parlent de tel ou tel pays du monde sont consultées dans ces pays du monde de manière assez nette. Voilà, quand vous avez un ouvrage africaniste, il va être consulté dans les pays africains et quand il va parler d'Amérique latine, dans les pays latino-américains. Il y a quelque chose, il y a un petit doute que j'avais sur ces chiffres. Le grand déséquilibre entre les langues anglaises, espagnoles et françaises, on pourrait se dire, ah oui, il ne faut pas trop s'étonner que l'espagnol et l'anglais rencontrent des meilleures consultations que les articles en langue française, étant donné que le nombre mondial de locuteurs est beaucoup plus important. Donc, il y a quand même un certain biais à les comparer. Sauf que quand on affine un peu, On voit que, par exemple, le livre en français le plus lu porte sur le Maroc, qui n'est pas un pays avec une population qui excède la population française. Et c'est surtout au Maroc que ce pays et que ces études sont consultées. Pareil pour le Cameroun, qui n'a pas une population incroyable par rapport aux autres pays francophones, et c'est au Cameroun que c'est consulté. Quand vous avez un livre sur le Pérou, c'est essentiellement au Pérou qu'il est consulté. Voilà, donc le bassin linguistique mondial n'est pas si surdéterminant que ça, en fait. Alors, j'avais dit... Hop, non, c'est ici qu'on change la slide. Voilà. Alors là, j'ai pris le rapport annuel Open Edition qu'ils ont la gentillesse de publier et de rendre publiquement. Trois pléonasmes. J'avais dit qu'il y a peu d'universités dans lesquelles les accès numériques sont tout à fait efficients. Il y a quand même un pays qui, manifestement, a fait des efforts d'infrastructure numérique de ces universités, c'est le Sénégal. Et on retrouve des institutions sénégalaises dans les premières institutions utilisant les bouquets Books et Journals, bien au-dessus de la plupart des campus français. Je vais parler rapidement d'autres cas pour voir que ce n'est pas spécifique à Open Edition. Sur la base Horizon IRD, qui est la base de documentation où sont déposées les publications des chercheurs de l'IRD, qui sont assez largement en français, elles sont beaucoup téléchargées, elles sont téléchargées en Afrique francophone bien davantage qu'en Europe et sur les autres continents. Un autre, alors elle pique un peu les yeux cette slide, mais j'ai pris quatre captures issues de documents récupérés dans la collection HAL de Les Afriques dans le Monde, mon laboratoire, et j'ai essayé de picorer, voir le nombre de téléchargements de fichiers. Alors, ce n'est pas que j'ai un peu triché, mais bon, j'ai cherché les thèses, et les thèses qui étaient déposées depuis plusieurs années sur la plateforme. Et donc, vous voyez que le nombre de téléchargements de fichiers est assez incroyable aussi. Là, je vais de 9000 jusqu'à 26000. Je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant, mais je n'ai pas pu dépouiller tout le catalogue dans HAL. Et alors, je n'ai pas pu refaire mes slides parce que les statistiques HAL ne fonctionnaient pas, mais je les ai déjà fait, qui tentent à prouver que les fichiers, par exemple, qui traitent du Cameroun, sont effectivement téléchargés au Cameroun. Ceux qui parlent du Sénégal et du Maroc sont notoirement et sensiblement téléchargés au Sénégal ou au Maroc. Donc, on trouve des lecteurs sur le continent africain via tous ces moyens. Alors là, on parle de gros chiffres, d'indicateurs, de statistiques, c'est assez spectaculaire, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose sur l'utilisation réelle des publications et des textes? Alors, pour voir ça, je fais un pas de côté, là je ne prends pas les livres ou les revues. Vous allez voir pourquoi. Je prends un carnet de recherche que j'administre aussi pour les Afriques dans le monde, qui s'appelle Esquisse. Alors, c'est un beau carnet de recherche, assez éditorialisé, avec une équipe de coordination, une évaluation des textes, et voilà, une édition assez propre. Donc, on va en faire quelque chose d'assez qualitatif, en fait, pour mettre en avant les travaux du laboratoire. Et ce qui est sympa avec des billets hypothèses, parce que c'est sur hypothèse, c'est que ça peut se partager facilement sur Facebook. Et quand les chercheurs partagent un contenu qui concerne l'Afrique sur Facebook, où ils ont aussi des réseaux, des liens avec les réseaux culturels et intellectuels locaux, il se passe un certain nombre de choses intéressantes. Par exemple, cet article, qui est dû à une chercheuse de mon labo, Ophélie Rion, partagé sur Facebook, reproduit sur deux groupes Facebook qui regroupent plusieurs dizaines de milliers de membres sur l'histoire du Sénégal et sur les questions du Sénégal. Cet article parle notamment du Sénégal. Ces articles ont été largement partagés et même reproduits in extenso, c'est ça qui est intéressant, en tant que post Facebook. Donc la consultation et la vie de ce billet, au bout d'un moment, s'est fait via des copies en post Facebook. Et la discussion a tellement capillarisé qu'en fait, j'ai appris cette résonance communautaire du billet du fait que l'auteur qui posait des questions sur une personne dont elle avait du mal à retrouver des traces historiques a eu des messages de la part de personnes sur Facebook qui ont donné des informations sur cette personne. Donc, il y a non seulement un usage clair, mais des effets de recherche de ce genre de passage. Alors, un autre exemple, encore plus spectaculaire peut-être, c'est un entretien avec Souleymane Bachir Diagne, qui est un intellectuel et un philosophe réputé sénégalais. Donc, un billet d'interview qui a été publié, qui a été aussi partagé sur Facebook, largement commenté, et alors cette fois-ci, carrément copié-collé dans divers médias web sénégalais. C'est ce que je montre sur la droite. Ici, ce sont juste des copies du billet, plus ou moins créditées. Mais bon, c'est un autre problème. De toute façon, les contenus sont en CC BY, donc ça ne me dérange pas plus que ça qu'ils soient totalement copiés. Et à partir du moment où ils ont été copiés, alors là, je vous montre quelques captures d'écran, mais ce n'est vraiment pas tout. Il y a eu énormément, parce qu'il se trouve que c'est Souleymane Bachir Diagne, faisait quelques remarques critiques sur Cheikh Anta Diop et avait fait quelques réflexions qu'il n'avait pas livrées par ailleurs et référençait dans cette interview un texte qui était assez introuvable en fait et qui s'est retrouvé ressurgir. Donc là, ce sont des captures d'écran d'articles, de billets de blog, de réponses à des billets de blog, d'articles en réponse à d'autres articles qui ont été faits à partir de cette interview-là. Et ça a été une grande déferlante pendant 2 à 3 mois, en réalité. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et impressionnant de voir aussi que l'usage ne s'est pas fait juste à partir d'hypothèses, mais à partir de différentes copies. Je pense que je ne les ai pas toutes retrouvées de l'interview qui s'est retrouvée au sein de la discussion culturelle sénégalaise de manière tout à fait inattendue. Voilà, troisième question, parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai laissé jusque-là un éléphant dans le couloir, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup des éditeurs occidentaux, je vais le dire comme ça, qui parlent d'études africaines, sur l'accès ouvert, mais je n'ai pas encore vraiment abordé ce qui se passe du côté des universités africaines, des académies africaines, et de leur existence dans le paysage de la publication numérique d'une part, en accès ouvert d'autre part. Alors la première chose sur laquelle je reviens, c'est l'incroyable sous-représentation des universités africaines dans ce qu'on appelle la conversation académique internationale, représentée ici par la présence des auteurs africains dans Web of Science, qu'a fait un étudiant et doctorant, et je cite son article en dessous, toujours dans le cadre du projet SOA. Alors, première chose, quand je parle ici de chercheurs africains, je ne parle pas de chercheurs ou d'auteurs de nationalité africaine. Ce n'est pas du tout ça le sujet. C'est de personnes employées et travaillant dans les universités africaines. Un chercheur de nationalité nigériane qui travaille et qui est embauché au Royaume-Uni a absolument la même fréquence de publication dans les revues d'impact internationaux que ses collègues. La question se pose sur les gens qui travaillent depuis les campus africains. Donc, une très, très nette sous-représentation de l'Afrique, donc 0,82% pour l'ensemble du monde. Je rappelle qu'il y a 1,3 milliard d'habitants. Et donc là, l'objet de cet article, c'était de montrer la représentation incroyablement faible de l'Afrique subsaharienne francophone, qui est à 0,01%. Donc, les grandes plateformes visibles internationalement de la publication académique en sciences humaines et sociales, notamment en études africaines, on voit qu'il y a un problème de goulot d'étranglement. Alors, pour aller plus loin, parce que c'est, là aussi, c'est quand même un sujet énorme de traiter de l'état de la publication scientifique en Afrique, j'ai juste fait une esquisse sur trois pays qui m'intéressent particulièrement, parce que ce sont trois pays dans lesquels sont implantés les UMIF pour qui je travaille, donc il n'y a pas de hasard, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et alors, ce qui peut être intéressant de voir ce qui se passe pour les publications de leurs chercheurs, c'est que ce sont des pays assez leaders économiquement, en fait, sur le continent. Nigeria et Afrique du Sud, c'est les deux premières puissances économiques du continent. Le Kenya est la septième. Donc, on peut se dire que ça peut se passer relativement bien économiquement pour ces pays. Si ensuite, on regarde le PIB par habitant, alors là, le tableau est quand même franchement différent. L'Afrique du Sud, qui a le meilleur détroit largement, si c'était un pays européen, se retrouverait vraiment dans le tout dernier quart des pays d'Europe en termes de PIB par habitant, et vraiment à la fin de la liste des pays d'Amérique du Sud. Et le Nigeria et le Kenya sont bien, bien, mais alors très en dessous à la fois des pays d'Europe ou des pays d'Amérique du Sud en termes de PIB par habitant. Alors, je ne dis pas ça juste pour le plaisir de parler d'économie, mais évidemment, si on parle d'infrastructure de la recherche, d'infrastructure de la publication, de financement de l'accès ouvert, on parle aussi de pouvoir économique de différents pays. Et voilà, c'est ces indicateurs-là que je proposais de garder en tête sur ces questions-là. Alors, où sont les lieux de la publication électronique? Et alors là, dans ce que je vais montrer, je me suis intéressé à la fois à savoir où les personnels chercheurs des universités africaines publient, mais également ce qu'ils citent dans leurs publications. C'est-à-dire, en gros, où se trouve la conversation scientifique de ces auteurs-là. Alors, je passe rapidement sur un premier lieu qui est une édition institutionnelle qui n'est pas structurée en grandes plateformes de publication, mais des sites qui se trouvent soit articulés, soit dans les sites des universités, qui sont souvent construits en OJS. C'est quand même dans l'Afrique anglophone une technologie qui est manifestement connue. Mais bon, on n'en trouve pas beaucoup. Ces sites ne sont pas extrêmement robustes. Ils plantent souvent, en fait. Et ils ne font pas du web intégral. C'est souvent des PDF. Et il y a quand même des plateformes de revues à l'échelle du continent. Alors, je vous en montre deux ici, African Journals Online et Savinet. Alors, c'est des plateformes généralistes, dans le sens qu'elles couvrent l'ensemble des sciences, sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Et elles sont mixtes, dans le sens où elles accueillent à la fois des revues en accès ouvert et des revues payantes sur abonnement ou sur achat. Donc, pour African Journal Online, la moitié des revues sont en accès ouvert. C'est une fondation sur fonds publics, notamment britannique à la base, basée en Afrique du Sud. Et Sabinet African Journal, c'est une plateforme privée qui vend essentiellement des abonnements. Il y a, voilà, vous voyez, une centaine de revues en accès ouvert sur 600 revues. Et il y a aussi une présence sur Cielo, mais seulement pour l'Afrique du Sud. Et pour à peu près 80 revues. Donc, c'est des revues généralistes. Là, je reprends le cas d'African Journal Online, ce qui est peut-être le plus intéressant. On trouve tous les pays, mais alors vous voyez, avec un très, très grand déséquilibre entre la présence des pays éditeurs de revues, une grande majorité de revues nigérianes, ensuite des revues sud-africaines et Sud-Pays Kenya. Ça suit quand même relativement fidèlement la liste des poids économiques des différents pays. Vous pouvez vous dire que Nigeria, c'est quand même très bien représenté pour à peu près 220 revues. Il faut rappeler que le Nigeria fait 220 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas un énorme bouquet, en fait, pour la taille du pays. L'Afrique du Sud fait 60 millions d'habitants, il y a un peu moins de 100 revues. Donc, ça reste assez discret et on peut se douter que ça ne couvre pas tous les besoins de publication académique des chercheurs. Alors, si on regarde un peu dans le détail, on a un peu d'autres vues. Et il y a une catégorie African Studies. Donc, je ne m'intéresse pas juste à l'édition africaine, mais à l'édition africaine en études africaines. On trouve 56 revues dans le catalogue AJOL, dont la moitié sont en réalité inactives. Et c'est en fait le cas d'une bonne partie des revues sur cette plateforme. 19 sont en accès ouvert. Donc, les deux tiers des revues qui sont actives, si vous voulez, avec une nationalité, un partage de nationalité un peu plus diversifié et moins prédominant pour le Nigeria. Et la raison s'explique assez facilement quand on vient aux revues publiées par le Nigeria sur ce genre de plateforme. Elles sont surtout en santé, dans les sciences de l'ingénierie et en technologie, si vous voulez. Et finalement, pas tant que ça, en sciences humaines et sociales. Donc, et là, effectivement, je complète, on voit que les universitaires, notamment nigérians et sud-africains, publient des articles dans les revues hébergées par ces plateformes et citent également des revues hébergées par ces plateformes. C'est beaucoup moins le cas pour les collègues kényans. Ce ne sont pas du tout les seules revues que citent les Sud-Africains et les Nigérians non plus. Donc, il y a un lieu de la publication électronique qui existe, en ce que j'ai appelé la science occidentale, pour faire simple. Donc, les grandes revues, notamment indexées dans le Web of Science et affiliées. La publication dans ce type de revue est assez normale pour les universitaires et les chercheurs sud-africains qui sont vraiment largement connectés, et c'est à peu près les seuls, en fait, quasiment les seuls sur le continent à être connectés avec cette science occidentale normale. Elle est réservée à une petite élite académique au Nigeria, les professeurs capés en général, d'après ce que j'ai vu dans les bibliographies, et elle est très rare au Kenya. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de corrélation. Bon, il faudrait regarder d'un peu plus près les chiffres que là j'ai vus sur quelques échantillons. Mais plus il publie, plus il cite ses revues, moins il publie dans ses revues, moins il les cite, en fait. Voilà, il y a une sorte de vice-versa de ces publications. Et alors, et c'est ça le plus frappant, il y a un autre lieu de la publication électronique que j'ai appelé de manière très objective les publications alternatives, qui sont ce genre de plateformes qui clignotent souvent un peu partout, qui sont généralement localisées en Asie et qui sont pour la plupart d'entre elles sur la liste des revues d'éditeurs prédateurs ou sur les listes noires des différentes personnes qui demandent à faire attention à là où on publie. Je vous cite un article intéressant sur ce sujet, où on voit qu'en réalité, ce n'est pas un usage marginal, mais c'est un usage extrêmement courant pour les enseignants-chercheurs et chercheurs kényans, massivement, et nigérians aussi, de recourir à ce type de publication. Et alors, elles sont pléthoriques. J'en mets quelques exemples pour essayer de faire leur profil. Elles sont très généralement, pas toutes, mais quand même très généralement en accès ouvert intégral web, en plus du PDF. Ils proposent des DOI. Ils ont bien évidemment des frais de publication d'articles qui se situent en gros entre 50 et 100 dollars. Et les éditeurs sont parfois difficiles à trouver, mais ils sont en général dans la zone indienne, pakistanaise ou du sud-est asiatique. Et alors, pardon pour ce tableau, mais je vais essayer d'en dire brièvement quelques mots. J'ai essayé de voir, bon, quel est l'usage de ces publications? Est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, des publications poubelles qui ne servent pas à grand-chose, juste pour faire monter son taux de publication, et qui ne sont pas discutées, qui ne servent à personne? Ça ne semble pas vraiment être le cas. J'ai pris le cas de cette revue qui s'appelle International Journal of Education and Research, donc c'est quand même assez étroit, ça parle d'éducation. Sur 1800 articles, j'ai trouvé 500 références Kenya différentes, dans 500 articles différents. Donc il y a quand même un corpus manifeste qui parle du Kenya. Je suis allé revoir dans les dépôts d'archives ouvertes de deux universités kenyanes, et ça, je ne l'ai pas dit parce qu'on peut, on ne peut pas parler de tout, mais je le mentionne quand même en passant. S'il y a un domaine sur lequel il y a eu quand même des efforts d'investissement et d'infrastructure dans des pays de type Kenya, c'est sur la présence de dépôts en archives ouvertes. Donc bref, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais on voit que cette revue est en fait citée dans les articles déposés dans ces dépôts. On pourrait se dire, bon, c'est de l'autocitation, c'est des gens qui ont publié, qui ensuite déposent leur article. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on les trouve aussi cités dans les thèses et les masters. Donc, ils ne sont pas des publications, mais les thèses et les masters citent assez notoirement, assez sensiblement cette revue dans le corpus éducation de ces différents dépôts. Alors, j'en reste à une vue objective et tout à fait agnostique. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je ne sais rien de la valeur scientifique de ces articles. Ce n'est pas du tout une question secondaire, mais là, ce n'est pas le sujet. Ce que j'essaye, ce qui peut émerger de ça, c'est qu'il y a une conversation scientifique via ces plateformes alternatives tout de même qui existent, et un travail entre les chercheurs qui se fait à partir de ces drôles de plateformes qui sont tout de même, et ça il faut le signaler, manifestement plus robustes que l'édition numérique institutionnelle de chacun de ces pays, qui n'est économiquement pas du tout mise en place. Alors, ces lieux de publication alternative, mais d'autres, m'ont fait penser, je vais y revenir, à une expression de Jean-Claude Guédon qui parle de l'édition africaine. Il parle de salon des refusés. Il y a bien un endroit où doivent se retrouver les articles et les travaux de tous ceux qui n'ont pas accès aux plateformes par ailleurs. Et on voit qu'il y a une pression et un vrai mouvement vers l'accès ouvert. Et les chercheurs investissent les lieux qu'ils peuvent investir. Et c'est, par exemple, ce genre de publication alternative. Et le fait qu'il s'agit d'une sorte de débouché alternatif et aussi d'une publication dont on peut douter des parcours d'évaluation des articles, ça m'a fait penser à un éditeur que vous connaissez tous, qui est L'Harmattan, qui est un éditeur, j'ai remarqué, déconsidéré un peu partout, sauf par la plupart des mondes académiques africains francophones, où c'est un éditeur extrêmement présent encore pour les livres et les revues dans pas mal de disciplines en Afrique de l'Ouest, et qui ne publie pas juste de fait que des choses inintéressantes et marginales, puisque, et c'est l'objet des deux camemberts que j'ai fait là, les livres de L'Harmattan, en l'occurrence c'est les livres, L'Harmattan représente le premier éditeur dans les acquisitions du centre de documentation de l'AM, donc des Afriques dans le monde, que ce soit pour toutes les langues et encore plus visiblement pour le corpus en langue française. Les ouvrages de l'Harmattan représentent le tiers de toutes les acquisitions en langue française. Donc un éditeur très peu visible en fait en France, mais très visible en Afrique, publie tout de même des textes intéressants, puisqu'on n'achète pas n'importe quoi au LAM. Il y a un comité de sélection et un comité d'acquisition qui se retrouve à commander le tiers de ces livres chez l'Harmattan pour les livres français. Je vais passer assez rapidement là-dessus pour dire que on pourrait dire que c'est une autre science. Rien qu'à voir les bibliographies en fait, des chercheurs et les lieux de publication et le fait, je ne l'ai pas dit, mais de la forte présence de littérature grise en fait, dans les bibliographies des chercheurs qui ne font pas partie de l'élite académique africaine. Et j'ai dit que les plateformes d'archives ouvertes étaient assez développées dans les pays d'Afrique anglophone. Et effectivement, c'est très intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de thèses et mémoires citées à partir de ces archives et beaucoup moins des articles à comité de lecture, sauf quelques publications internationales et des publications donc, que j'appelle alternatives. Je vais vous passer la lecture de ces citations que j'ai tirées de ce livre fort intéressant, dont je mets le lien en bas de slide, mais qui pose le problème de savoir comment résoudre le problème de l'accès au savoir en Afrique. Et est-ce qu'il faut le résoudre simplement en ouvrant tous les accès de consultation des revues ou des publications du Nord occidental vers le Sud? Si demain, Cambridge libère tous ses accès, ainsi qu'Oxford, Brill, et Taylor et Francis, est-ce que le monde de la science va être formidable et va avoir une certaine égalité de traitement cognitif, comme dit justement ce livre? C'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas seulement deux mondes académiques et deux publications, mais il y a aussi deux agendas de recherche. L'agenda de recherche des universités du Nord, qui sont, je vous ai dit, dans un objectif pas seulement de recherche pure, mais aussi de formation de professionnels et d'experts, n'est très manifestement, sensiblement pas le même que l'agenda de recherche en Afrique pour les territoires africains. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement en cours qui est encore assez mal financé de réappropriation des infrastructures de l'accès ouvert en Afrique, un peu plus largement que African Journal Online. Donc là, je mets le portail des revues africaines du CAMES, donc en Afrique francophone, en fait, qui propose une plateforme en OJS, sans web intégral, sans DOI. Donc c'est en fait, pour l'instant, plus rugueux d'approche que les publications asiatiques. Et vous avez cette initiative intéressante que je vous invite à découvrir, qui s'appelle le Grenier des Savoirs, qui veut monter une plateforme de revue spécifiquement africaine, avec une épistémologie africaine également, et un agenda de recherche africain, et qui n'est pas extrêmement financé non plus. Et j'en viens enfin à la place des UMIFRE d'Afrique dans les publications en études africaines. Donc les UMIFRE d'Afrique, c'est là où je travaille. Alors, les instituts français de recherche à l'étranger, là, j'ai pris juste l'Afrique subsaharienne et pas l'Afrique du Nord, qui est aussi couvert par les instituts français. Mais voilà, il se trouve que je travaille avec les UMIFRE d'Afrique subsaharienne. Donc, chaque pays, chaque institut est installé dans un pays et a un mandat scientifique sur une zone régionale qui couvre plusieurs pays. Donc, les 6 centres en Afrique subsaharienne couvrent le territoire que j'ai coloré sur cette carte. et qui représente 1 milliard d'habitants et 70% de l'ensemble humain du continent, et 7 des 10 principales puissances économiques. Donc, rien qu'en termes humains, ce n'est pas spécialement un territoire secondaire. Et pour la recherche en sciences sociales portée par le CNRS dans ce territoire, il y a quelques chercheurs français, notamment en mission là-bas. Il y a un personnel support et il y a, si on fait le compte, deux agents qui ont des missions d'édition dans leur feuille de route. Donc, BM, c'est moi, en fait, à 50%, parce que les 50% autres, c'est pour les Afriques dans le monde. Et le secrétaire ou la secrétaire scientifique du CFEE, un poste qui tourne tous les deux ans, qui est un poste de scientifique, mais qui a la charge traditionnelle de s'occuper des publications du CFE, donc le Centre français des études éthiopiennes, pour leur revue Les Annales d'Éthiopie, et depuis peu pour les livres du CFE. Alors dans ce monde, il y a deux structures assez anciennes, qui sont en Éthiopie et au Soudan, et qui se consacrent à l'archéologie, plus le CFE, qui est beaucoup plus large, mais bon, c'est leur origine historique, et des structures plus récentes, au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud. Alors, quand même, de la fin des années 70 pour les deux IFRA et de 95 pour les Instituts français d'Afrique du Sud. Et il y a une antenne récente du CEDEJ qui est en Égypte, au Soudan, et qui se trouve pour plusieurs sujets, et notamment les sujets de publication en lien direct avec les instituts en Afrique subsaharienne. Donc, aujourd'hui, il y a une publication portée en propre par les UNIF, parce que les UNIF ont quand même cette particularité très originale dans le monde des unités de recherche en France, qui ont le pouvoir de se constituer éditrice. Je reviendrai peut-être là-dessus. Et donc, il y a trois marques éditoriales. Centre français d'études éthiopiennes, IFRA Nigeria, qui correspondent à deux centres, et plus récemment Africae, qui en fait regroupe les trois instituts qui n'avaient pas de présence numérique sur la plateforme Open Edition Books jusqu'à l'année dernière. Donc l'IFAS, la SFDAS au Soudan, les instituts d'Afrique du Sud et du Kenya, dont on a fait une marque commune pour éviter d'éclater encore le corpus en trois mini-sites. Alors, au mieux, vous pourriez vous dire ces différents sites pourraient s'agréger pour créer un portail commun. Ça pose des questions sur lesquelles on pourrait revenir tout à l'heure. Et je dis que le fond de ces livres, en fait, est assez restreint. Vous avez 10 et 20 livres sur chacun de ces sites et ça n'a pas de commune mesure avec d'autres instituts français de recherche à l'étranger, qui sont beaucoup plus implantés et ont une tradition de publication intégrée beaucoup plus forte. Et par exemple, dans les presses de l'IFPO ou l'IFEA au Pérou, vous allez voir sur la plateforme Punition Books entre 150 et 250 livres, en gros. Alors, il y a aussi des revues qui sont sur la plateforme Punition Books, les Cahiers d'Afrique de l'Est, depuis assez récemment. En fait, elle était diffusée de manière assez confidentielle et non commerciale localement, ce qui était le cas de beaucoup de publications, avec un certain effort de correction, de restructuration du comité éditorial. On en a fait une revue d'Open Edition Journals, dont les consultations, alors ce n'est pas toujours la course aux consultations, mais c'est quand même assez intéressant de le signaler, sont assez intéressantes et viennent de l'Afrique de l'Est. La petite nouvelle revue Source, qui est la première revue qui est une initiative commune de tous ces instituts français de recherche. Et vous avez aussi des objets dont j'ai quand même souhaité parler. Là, c'est un carnet hypothèse, mais qui présente ce qu'on appelle des working papers et qui existait bien avant le carnet hypothèse lui-même, ce qu'on appelle Mambo au l'IFRA Nigeria, qui existe en fait, c'est une collection de working papers qui existent depuis les années 90 et dont l'objectif est de publier à part égale des auteurs français en mission ou sur le terrain en Afrique de l'Est, mais aussi des auteurs issus de ces pays d'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi. Et c'est une des spécificités des UNIF, en fait, que j'aborde par là, ça j'en parlerai plus tard, c'est que le Torah est extrêmement mixte du point de vue des nationalités. Les cahiers d'Afrique de l'Est, par exemple, ou les publications de l'IFRA Nigeria, ou un Notora qui a plus de 50% africains. Alors, je vous ai monté les livres en accès ouvert. Il y a des livres qui ne seront pas en accès ouvert. C'est le fonds traditionnel d'ouvrages que les UMIF ont édité avec Kartala depuis les années 90. Donc, une soixantaine d'ouvrages. Pour des histoires de négociation de droits, on ne va pas trop les publier sur Open Edition Books pour l'instant. Ce sont des livres qui sont systématiquement en français, de chercheurs généralement français, qui parlent en français de territoires anglophones, puisque ce sont les lieux des UMIF, comme l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est ou le Nigeria. Et les livres en accès ouvert sont de nature tout à fait différente. Ce sont les livres qui ont été fabriqués avec notamment des éditeurs partenaires locaux. Vous voyez ici, non, vous ne le voyez pas, mais ces deux livres ont été publiés en coordination avec des éditeurs tanzaniens et kenyans, dont on a pu négocier la version accès ouvert. Vous avez ce livre qui a été publié avec un centre de recherche aux Pays-Bas, l'African Studies Center de Leiden et l'IFRA Nigeria, et ce livre qui a été publié en fait par un montage entre la Société d'ethnologie en France, l'éditeur Twaweza au Canada, au Kenya, et Africae qui va le publier en version numérique, alors qu'une version électronique sera aussi diffusée par la Société d'ethnologie en France et une version imprimée sera par ailleurs distribué au Kenya. Voilà, alors cette slide est beaucoup trop longue, mais c'est la dernière. Alors, qu'est-ce que c'est que les publications des UMIF? Alors, je ne vais pas réinventer vraiment l'eau tiède, mais la feuille de route, c'est de faire une édition efficace, et c'est un mot terrible, mais je prends efficace dans le sens le plus traditionnel, ça veut dire qu'il produit des effets. Et qu'est-ce que c'est les effets visés par les publications des UMIF? Et c'est dans leur mandat, et c'est ce pourquoi elles ont la faculté de se constituer éditrices, c'est d'exister et de faire exister une conversation scientifique, surtout au niveau de leur région d'implantation. Alors, pour que ça produise des effets, c'est toujours mieux que ce soit en accès ouvert. C'est très important également de privilégier les langues véhiculaires des territoires concernés, l'anglais, le portugais, mais aussi l'amérique ou le swahili. Et c'est pour ça que la non-présence des ouvrages de Kartala n'est pas un si grand problème que ça pour l'image des marques éditoriales UMIF. De conserver un autorat qui est mixte, un directorat, des directeurs d'ouvrages mixtes, c'est-à-dire issus de réelles collaborations et de champs de rencontres entre les intellectuels africains et européens, d'essayer de fonder les ouvrages sur des programmes de recherche collaboratifs entre les institutions africaines et européennes pour éviter cette surdétermination occidentale des agendas. Et voilà, de s'appuyer aussi très pratiquement sur des relais mixtes pour la création et la diffusion des publications en Europe, mais aussi en Afrique, sur différents points. Alors, je m'arrête là parce que j'ai dépassé d'une minute, je vois. Et pour dire que, alors je ne vous ai pas beaucoup parlé de mon métier, mais j'ai parlé du contexte qui me semble intéressant, pour essayer de vous dire qu'à mon avis, les études africaines, ça pose pas, et l'édition en territoire africain, ça ne pose pas des questions d'édition très spécifiques, mais ça pose des questions de justice dans l'accès aux moyens de production de la science et aux moyens de production des publications, avec une intensité et une clarté particulière, et je m'arrête là. Voilà,
merci beaucoup.
J'ai tenu une heure.
Bah, c'est parfait. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très clair et ce panorama donc, des publications africanistes. Je suppose que nous avons de nombreuses questions à te poser. Je propose que nous commencions tout de suite. Donc, nous avons encore une vingtaine de minutes pour aborder les points que vous avez envie de, voilà, de plutôt d'éclaircir ou des questions sur le métier quotidien de Bastien avec les humifres peut-être. Je vous propose de... voilà, j'ai vu que Irini, pardon, tu peux poser la première question, de vous présenter pour qu'on sache où vous travaillez et ce que vous faites. Voilà. Et puis,
oui, bonjour. Bah, déjà, merci au Réseau Medici d'avoir organisé ce webinaire et merci aussi à Bastien pour son exposé. C'était vraiment très intéressant. Donc moi, je m'appelle Irini Paltanis-Argologos. Je travaille à la DEDOR du CNRS. Donc, c'est la Direction des données ouvertes de la recherche. C'est l'ancienne DIST du CNRS. Et je travaille sur les questions liées aux publications scientifiques et à tous les sujets ayant trait à l'accès ouvert des publications. Et du coup, ma question pour Bastien est liée au serveur de préprint, comment il s'appelait? African Archive, ou Africa Archive, je crois. Et je voulais lui demander dans quelle mesure ce serveur de préprint a pris sur le continent africain ou pas, parce qu'à l'inverse, on a d'autres serveurs de préprint qui marchent très bien, comme BioArchive en biologie ou ChemArchive. Et je me demandais si ça avait marché pour cette thématique vraiment africaine, pour le serveur de préprint Africa Archive.
Alors, merci pour cette question. Je suis loin d'être un spécialiste de tout le paysage éditorial et documentaire sur les publications scientifiques en Afrique. Mmh. Je connais assez mal Africa Archive. En réalité, je vois que c'est une déclinaison d'archive. Je l'ai honnêtement, parce que j'ai quand même travaillé, en fait, je vois les choses depuis le petit bout de la lorgnette, hein, depuis les citations dans les articles que je vois passer, notamment de chercheurs africains, je ne l'ai jamais vu passer.
Oui, mais c'est révélateur.
Oui, ce que j'ai vu passer, je vous ai dit, c'est beaucoup, surtout au Kenya et au Nigeria, quand même, l'utilisation d'archives ouvertes institutionnelles locales, en fait.
Oui,
qui sont pas que des préprints, qui sont aussi de la littérature universitaire, mémoire, thèse, etc. Et dans d'autres documents de recherche, research papers, enfin, il y a toute une série de choses comme ça. Et alors, je peux compléter la question que vous me posez peut-être pas, mais... Qui est peut-être lié, c'est est-ce qu'il y a des services d'archives de données sur le continent africain, en dehors des préprints? Il se trouve qu'on se gratte la tête, on se pose cette question régulièrement pour la revue Source, matériaux en études africaines, comme son nom l'indique, cherche à parler des sources, et qui a aussi un programme de présenter les matériaux numériques primaires de la recherche autant que possible à côté des articles et de les articuler aux publications. Donc, on a essayé de voir, histoire de ne pas aspirer tous les matériaux qui pouvaient être présentés, voir s'il y avait des entrepôts de données fiables en Afrique subsaharienne, en accès ouvert et suffisamment structuré. On n'en a jamais trouvé. Il y a quelques initiatives, et notamment toujours en Afrique du Sud, mais qui sont institutionnelles, on ne peut pas vraiment profiter, qui sont en accès restreint. Donc, on utilise pour l'instant, pour l'archivage des sources, ce qu'on peut, notamment Nakala, qui est très bien, et pour l'archivage des documents intéressants qui ne sont archivés nulle part, en se débrouillant, par exemple, en faisant des snapshots avec web, archives, etc. Mais voilà, on n'a pas de lieu où stocker ça, général, sur le continent. Alors, on fait avec ce qu'on a. Et on fait, en général, depuis les infrastructures européennes.
OK, merci.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? J'en ai une, mais Bertrand, peut-être, non, je te vois. Oui, vas-y. Ouvre ton micro, s'il te plaît.
Voilà. Bonjour, donc je suis Bertrand Grandsagne, le responsable des publications de l'École française d'Athènes. J'avais une question concernant la mise en ligne des publications des UMIFRE. Donc, elles sont assez récentes. Visiblement, il y a un bel effort qui est fait. Et comment se passe l'articulation entre Open Edition et ses UMIFRE, et notamment la formation du personnel, parce qu'on sait que c'est assez... je ne dirais pas compliqué, mais effectivement, c'est aussi une technologie à maîtriser. Et donc, dans ces cas-là, comment ça se passe? Open Edition vient en aide, il y a une formation qui est prévue où les UMIFRE ont dû acquérir par eux-mêmes des compétences. Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, vous avez abordé très rapidement des plateformes alternatives, entre guillemets, comme CAMES et Grenier du Savoir. Comment sont financées ces plateformes? Est-ce qu'il y a des institutions derrière ces plateformes? Est-ce que c'est du financement participatif? Comment elles vivent? Voilà. Merci.
Oui. Alors. Mon micro était ouvert. Merci beaucoup pour ces questions. Alors déjà, un premier point, quand on parle de publication des UMIFRE, c'est un nom un peu virtuel, en fait, qui était très virtuel jusqu'à il y a très peu de temps. En fait, il n'y a pas eu à proprement parler de publication des UMIFRE. Enfin, il y a eu des publications des UMIFRE, mais pas éditées par les UMIFRE. Les UMIFRE n'étaient pas formellement éditeurs depuis... quelques années, et c'est en fait Open Edition qui a changé la donne. En fait. La plupart des revues étaient, alors on dit gentiment coéditées avec Cartala, ce qui n'est pas vrai, elles étaient éditées par Cartala, et, avec les droits et les financements des différents instituts français de recherche. Pareil pour d'autres éditeurs, par exemple la revue Annales d'Éthiopie est éditée par De Bocard et pas du tout coéditée par le Centre français des études éthiopiennes, malgré... discours. Donc voilà, c'était un vrai travail de reprise en main et de création de marque éditoriale, souvent de zéro, en fait. Il y avait des livres qui étaient estampillés IFRA Nigeria ou IFRA Nairobi, mais qui n'étaient pas commercialisés, en fait, qui avaient, ou des PDF pas structurés, téléversés sur leur site. Donc voilà, la publication des UMIFRE en Afrique, ça a été un effort de très récent, en fait. Alors ensuite, pour la formation, alors je vous dis, il n'y a pas un monde énorme de personnel. Alors il y a moi, donc je suis formé. J'étais formé avant d'y arriver. Et il y a le secrétaire scientifique du CFE, qui est une personne qui change régulièrement, et qui suit maintenant, depuis 2016, je crois, ça fait partie de son parcours d'intégration, une formation à Open Edition sur site à Marseille. Ça a été le cas souvent, sauf peut-être pour la dernière personne que j'ai retrouvée à former moi, parce que c'était plus pratique, même si on fait comme on peut. Et il y a un projet, et c'est un peu lié au... projet FNSO que j'ai déposé pour les UMIFRE d'Afrique subsaharienne, comme je n'ai pas vraiment de réponse sur le caractère lauréat ou pas encore de ce projet FNSO, je ne vais pas en parler immensément, mais l'idée c'est d'avoir les moyens de créer une communauté plus large de professionnels pour les UMIFRE, qui ne sont peut-être pas tous basés dans les UMIFRE, mais aussi en France, comme moi, par exemple, dans des laboratoires qui sont partenaires des instituts. Et pour le CAMES et le Grenier des Savoirs, sur leur financement, alors, le CAMES, il me semble que c'est financé par le CAMES, enfin, le portail du CAMES est financé par le CAMES, qui a des financements nationaux, en fait, ça regroupe, c'est un conseil de différents pays d'Afrique francophone. Je regarde en même temps, j'avoue, hein. Mais je pense, mais à vérifier, que la majorité des financements, c'est des petites dotations de chaque État qui ne doivent pas être mirobolants. Le grenier des savoirs, alors ça, j'en avais entendu parler davantage. Au départ, c'est une initiative de l'Université Laval au Québec, qui est assez loin de l'Afrique, mais où travaillait Florence Piron, qui avait plusieurs doctorants issus des pays africains et qui ont créé cette plateforme avec un objectif qui était à la fois documentaire, éditorial, mais aussi, vous l'avez peut-être senti, politique, dans le sens, peut-être pas militant, parce que ça reste, mais de promouvoir d'autres façons d'éditer, d'évaluer, de présenter et de catégoriser les recherches en Afrique. Et voilà, et donc le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Justice cognitive, etc., est écrit à peu près par la même équipe qui a mis en place le grenier des savoirs. Et vous verrez ces choses-là dans ce livre-là. Et alors, informellement, j'avais discuté avec la personne qui s'en occupe, et ils ont des très, très faibles financements. C'est quelques milliers d'euros pour fonctionner. Voilà. Donc, c'est assez peu financé et ils cherchent des partenaires financiers. Vous pouvez faire un don, c'est sur la page. Donc, voilà, si votre laboratoire a envie d'une action très sympathique pour la science en accès ouvert mondial, je peux vous repasser le lien. Voilà.
Merci. Donc, il y a Amandine Texier d'Open Edition qui a mis un petit commentaire dans le chat pour préciser sur la formation à l'ODEL pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en France. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Je pense qu'on a le temps encore pour une ou deux autres questions. N'hésitez pas à lever la main, a priori, je vois tout le monde. Voilà, Véronique, vas-y, ouvrir le micro.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui?
Oui, c'est bon.
C'est bon? Donc, je suis Véronique Littaudon, je suis éditrice à l'IREMAM, donc je m'occupe... plus particulièrement de la revue La REM, qui est une des deux revues phares de l'IREMAM à côté de l'année du Maghreb. Juste pour m'éclaircir un petit peu, Bastien, vous êtes le seul éditeur qui travaille pour l'ensemble des UMIFRE, hein, c'est ça? C'est bien ça?
Des UMIFRE d'Afrique subsaharienne.
D'accord.
C'est-à-dire pas les UMIFRE du Maghreb, en fait, l'Égypte, qui ont du personnel, je pense. Mais, voilà.
Et donc, ce que vous expliquiez, c'est que les UMIFRE ont créé récemment leur marque éditoriale suite à leur hébergement sur Open Edition, c'est ça?
Oui, un peu précédemment à leur hébergement, sinon ça ne marchait pas. Mais effectivement, ça a été une occasion. En fait, ça a été une occasion de se rendre compte déjà que les UMIFRE avaient la faculté, et c'est même dans leur mission, de porter des objets éditoriaux et par là même de se constituer éditeur. Du fait, pour le préciser, que les UMIFRE sont des unités mixtes, le CNRS et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Côté CNRS, c'est la délégation régionale de Michel-Ange, la DR16, qui s'occupe et qui a l'habitude de traiter des dossiers d'édition pour plusieurs UMIFRE, donc qui peuvent servir de base pour le portage éditorial. Et de l'autre côté, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères délègue le pouvoir de signature, notamment la responsabilité juridique sur la signature de contrat, ce qui est quand même le nerf de la guerre pour constituer un éditeur, aux directions des UMIF. Donc, d'un côté ou de l'autre, les UMIF ont pu constituer éditorial juridiquement assez propre.
Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit en début d'intervention. Vous expliquiez que, selon vous, c'était parce que les disciplines de ces aires culturelles étaient professionnalisantes que cela pouvait influencer la faible ouverture des publications en accès ouvert. Et j'ai pas bien compris pourquoi vous avez cet a priori, parce que enfin pourquoi vous avez cette idée là, d'où vous vient cette idée que parce que moi j'ai pas enfin moi qui travaille à l'IREMAM, j'ai pas du tout l'impression que les études faites à l'IREMAM sur ces aires culturelles ont forcément une orientation de formation professionnalisante. Vous avez fait un parallèle avec le droit, par exemple. J'ai été étonnée de votre vision, mais ça vient d'où je m'étonne. Je ne sais pas si les autres auditeurs ont des réactions par rapport à ça. Ou... Voilà.
Oui. Non, je comprends. Peut-être que je suis allée un peu vite.
Mais, voilà, il y a quelque chose qui m'échappe, peut-être, je ne sais pas.
Alors, c'est peut-être... alors, les études africaines, je suis surtout sur les études africaines du contemporain. Vraiment. Mm-hmm. Sciences sociales du contemporain. Et je suis aux Afriques dans le monde, dont les tutelles sont Sciences Po. J'insiste sur Sciences Po. Et d'autres universités et l'IRD. Et donc, les disciplines... disciplines qui sont concentrées, qui sont accueillies par ce laboratoire. Et je vois bien les liens avec d'autres départements d'études africaines dans le monde occidental, qui sont fortes et qui existent. C'est sur des questions de sciences politiques, de droit, d'économie, de sociologie. Et on ne forme pas que des purs esprits de la recherche, où les postes, de toute façon, sont extrêmement restreints. Mais on forme des professionnels de la coopération, du développement. On forme aussi, et on en a parlé peut-être un peu trop vite, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin, il y a beaucoup, ça dépend des centres, mais dans le monde entier, il y a beaucoup d'étudiants boursiers africains qui viennent étudier, avec l'idée aussi de ne pas former spécifiquement des chercheurs, mais des cadres administratifs et des élites administratives de chaque pays. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Et effectivement, ce que j'en vois, moi, c'est un domaine qui est marqué par les questions de développement, qui est marqué par les questions de coopération, les questions d'administration publique, et donc qui forment clairement des experts et des professionnels de ces questions.
D'accord. Mais donc, c'est vrai qu'il y a quand même tout un espace aussi d'études sur... la littérature, la linguistique, la sociologie, l'anthropologie.
Bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais alors, dans les revues top niveau hein, que je montrais, African Affairs, African Development Review, Journal of African Economies, Review of African Political Economy, Development Social, bon, ouais. etc. C'est beaucoup des questions de cet ordre dont il est question.
D'accord.
Dans ce genre de revue. Alors, il y a de l'archéologie, de l'histoire ancienne, évidemment, mais voilà. Je pense que ces questions de développement économique et d'administration sont extrêmement prégnantes dans la force de ce type de département dans le monde entier. En fait. Et dans le fait qu'ils puissent vendre des masters, pour le dire comme ça, qui sont très compétitifs avec un monde de la formation de troisième cycle en études africaines qui est très prégnant aussi. Et au LAM, il y a aussi deux ou trois de master professionnel, master pro, coordonné par le personnel des enseignants-chercheurs de l'âme pour former également ce genre de professionnels.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Il est 12h30. Je vous propose, je ne vois pas d'autres mains levées, donc j'imagine qu'il y aura d'autres questions, mais qui viendront peut-être un peu plus tard, et puis on pourra envisager d'autres formats pour poursuivre les échanges.